1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus ce mardi 29 août, jour de rentrée de l'équipe du Grand Direct. Et oui, l'équipe est reposée et a passé un bel été, première émission de cette nouvelle saison, troisième rentrée du Grand Direct, je le disais, tous les mardis de 18 à 19h. Bon, ça c'est pour les heures du Grand Direct, vous les connaissez. C'est votre heure de vie lausannoise radiophonique. Aude, Daniel, Fabio et Jean-Luc sont à mes côtés ce soir, bonsoir à vous.
Bonsoir Fabien.
Vous avez passé un bon été?
Oui.
Excellent.
Magnifique. Au programme de cette émission de rentrée, quatre sujets. On va commencer ce soir par une expérience que tu as vécue, Aude, un hôpital en pleine rue.
Oui, tout à fait, Fabien, parce qu'en fait, un don du sang en plein air a été organisé à Saint-François il y a quelques semaines. Je vais donc vous emmener y faire un petit tour.
Eh bien, on se réjouit, ça tombe bien, moi qui aime les aiguilles. Bref, voilà, on verra tout ça dans quelques instants. Dans un quart d'heure, rendez-vous avec notre carte postale. C'est une carte postale maritime ce mardi. Ce sera avec Fabio en direct de Sardaigne à bord d'un voilier pour l'association Merveille. On découvre tout ça ensemble dans un quart d'heure, histoire de se rappeler les bonnes vacances. À 18h20, La Rose des Vents, Daniel, et avec toi, il sera question d'un festival ce soir, Festive Arte.
Oui, bonsoir Fabien. Alors, nous irons à la découverte de ce festival organisé par Métis Arte, à l'origine de cette manifestation. Et c'est en fait une association socio-artistique qui s'indigne et résiste par l'art.
Voilà, donc Festive Arte, c'est au programme de La Rose des Vents. Et puis, à 7h moins quart, Cultiver Lausanne, ce sera avec toi Jean-Luc, et ce sera question de programmation du City Club.
Oui, en fait, comme d'habitude, à chaque saison, début de... Mais c'est vrai, ça fait quand même 3 ans, oui. Enfin, un peu moins de 3 ans qu'on existe, hein, Radio Django.
C'est ça.
Et nous avons un partenariat avec City Club depuis pas mal de temps. Ils viennent présenter leur programme. Ce sera du cinéma, de la musique, et des rencontres, des événements. Voilà, on se réjouit.
Voilà l'habitude donc de leur faire une petite promotion. Et ça a lieu ce soir pour vous dans ce grand direct. Le don du sang à Saint-François, la carte postale maritime, le festival Festive Arte. Et le programme de la rentrée du City Club, c'est le programme chargé de rentrée de ce mardi 29 août. Jour de reprise radiophonique, c'est votre grand direct de Radio Django. À écouter sur radio.django.fm et sur le DAB avec La Fabrique tout autour du bassin lémanique. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Le 17 août dernier à Lausanne, un don de sang collectif était organisé sur la place Saint-François. Aude, tu allais faire un petit tour sur place.
Oui Fabien, parce que chaque année, j'entends parler de cette fameuse récolte de sang en plein cœur de la ville et ça m'a toujours intriguée. Alors cette année, j'ai décidé d'aller voir directement sur place en emportant bien sûr le micro de Radio Django.
Ah, ça c'est sympa. Donc faire un don de sang en plein air au milieu des passants, c'est une idée plutôt originale.
C'est vrai, en fait c'est une initiative de l'association La Fondation. On vous avait déjà parlé de cette association il y a une année, le 23 août 2016. Vous pouvez d'ailleurs réécouter le sujet en tout temps sur notre site, hein, django.fm. Mais pour revenir au don du sang, donc tout commence il y a 11 ans. La Fondation, justement, a convaincu le Centre de transfusion interrégionale de venir s'installer une journée au centre-ville. On écoute tout de suite Christine Guignard, membre du comité de la Fondation, qui nous explique la genèse du projet.
Tout commence par une idée. Une idée de quelques-uns du comité de la Fondation. On est simplement allé voir le centre de transfusion pour leur dire « Nous avons une idée. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ah, d'abord, ils étaient plutôt réticents, il faut le dire. Et finalement, on se disait « On va faire un peu de sensibilisation sur la place publique. » Finalement, ils sont quand même venus avec 3 lits et ils ont pu constater que c'était une journée qui valait la peine et qui a très bien fonctionné. Dès l'année d'après, on a commencé à augmenter et aussi à avoir des subventions de la loterie romande. C'est la 11e édition cette année.
Et vous êtes content, il y a chaque année du monde, il y a une bonne affluence.
On est un peu dépendant de la météo, dépendant de notre fatigue, et dépendant de différents facteurs, mais... Ça fait 11 ans qu'on est là et on va continuer. C'est sûr que c'est une journée qui est particulièrement agréable. On sent qu'on fait quelque chose qui a du sens. Et puis pour nous, pour l'association, mais aussi pour le centre de transfusion. Il y a cette idée justement à travers notre assoce. On veut sortir le centre de transfusion de sang de cette image qu'on a, pas très chaleureuse et qui peut faire peur ou qui est en lien avec le médical. Et comme on est sur la place publique, on est un samedi, nous on arrive avec un thème, cette année c'est les marins, on est costumés, on n'est nous-mêmes pas dans le milieu médical, on est plutôt des lettreux ou géologues, on vient d'un autre domaine. On se mélange mieux avec les passants, avec monsieur et madame tout le monde.
Merci beaucoup Christine d'avoir répondu à nos questions. Bon, on vous souhaite une bonne suite de journée sur la place Saint-François.
Merci à toi.
Donc ce projet Haute, c'est une sorte d'antenne de l'hôpital construite en pleine rue pour l'occasion.
On peut voir ça comme ça, oui. En fait, la fondation monte des tentes sur la place et le centre de transfusion vient installer son matériel. Plusieurs petites tentes sont consacrées à l'admission parce que pour pouvoir donner son sang, c'est important de répondre à plusieurs critères. Il faut donc d'abord passer par un entretien avec un membre du personnel médical. Et si tous les critères sont remplis, on peut ensuite se rendre sous la grande tente qui, elle, abrite quelques lits et le matériel de transfusion. Et puis ensuite, bien sûr, des petits gâteaux sont à disposition pour reprendre des forces.
Mais dis donc, ça c'est soigné avec les petits fours. Et toi, Aude, alors est-ce que tu as tenté l'expérience ?
Ben, malheureusement pas, j'aurais bien voulu, mais comme je disais, les critères sont très précis et doivent être respectés pour pouvoir donner son sang. Il faut par exemple être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne forme générale, peser au minimum 50 kilos, ne pas avoir récemment consommé d'antibiotiques, ne pas avoir fait de tatouages dans les 4 derniers mois avant le don, etc. Il y en a vraiment toute une liste.
Ouais, j'imagine.
Personnellement, j'aurais peut-être dû manger un ou deux burgers avant de venir, mais j'ai eu le plaisir de rencontrer Olivier et Héloïse qui, eux, ont généreusement donné leur sang à cette occasion. Bonjour Olivier, vous êtes venu aujourd'hui à Saint-François donner votre sang. Pourquoi vous avez décidé de venir ici ?
Bah, tout simplement, on se promenait en ville de Lausanne, puis vu qu'on y vient, qu'on n'a jamais l'occasion de donner son sang, quelqu'un nous a interpellés dans la rue en passant, et puis on s'est dit que c'était une bonne idée. Quoi. C'était ça, on n'avait pas vraiment un objectif défini de le faire. Quoi. Très souvent, il m'arrive de voir qu'il y a des collectes de sang qui sont organisées à droite, à gauche. Et puis ce qu'il y a, c'est moi j'y pense, puis après je l'oublie. Donc le fait de l'avoir sous la main, entre guillemets, ça pousse peut-être à faire ce pas-là. Quoi. La seule chose que seul petit bémol de ce genre de démarche, c'est que c'est un petit peu le temps et parfois peut-être un peu l'organisation que ça demande. On ne sait jamais trop combien de temps on va rester là. Donc,
Là pour vous, ça a duré combien de temps ?
Je pense que ça fait une bonne heure et quart et demie que je suis là quand même. Ouais.
Ça va, vous vous sentez bien ?
Oui, non, là, c'est bon, là, ça a donné le tour, on peut manger, donc c'est bien, c'est une bonne chose.
Bonjour Héloïse, on est aujourd'hui sur la place Saint-François, vous êtes là pour donner votre sang donc ?
Oui, exactement. Enfin, à la base, je travaille en fait pour le don du sang, je m'occupe de la promotion, et du coup j'ai décidé de moi-même donner mon sang, voilà.
Très bien, et c'est la première fois du coup pour vous ?
Oui, la première fois.
Et ça va, pas trop de stress ?
Je pensais pas être stressée, mais finalement un petit peu quand même. Mais je pense que ça va bien se passer.
Vous pensez que c'est quelque chose d'important de donner régulièrement son sang ?
Oui, bien sûr. Bah, déjà, je sais que notre corps il peut se permettre de le donner sans que ça ait des grandes répercussions. Et en plus de ça, ça sauve des vies quand même, donc oui.
Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, le processus ? Vous avez dû vous enregistrer avant de pouvoir aller donner votre sang ?
Oui, alors d'abord, il y a un petit questionnaire sur notre état de santé et si on a fait des voyages, etc., pour vérifier qu'on corresponde aux prérequis en fait, pour pouvoir donner. Ensuite, ils prennent notre tension et on s'enregistre en tant que donneur. Ensuite, il y a un petit entretien avec une infirmière et ensuite, on donne le sang.
On vous souhaite bonne chance pour tout à l'heure.
Merci beaucoup.
En tout cas, on félicite et on remercie Olivier et Héloïse pour leur courage et leur générosité. On rappelle d'ailleurs que les hôpitaux suisses ont constamment besoin de sang pour transfuser leurs patients dans le besoin.
Oui, tout à fait, Fabien. En fait, dans certains cas, pouvoir être transfusé, c'est même une question de vie ou de mort, d'où l'importance de ce type de journée. Tout de suite, les explications de Dominique Neff du département de marketing et communication du Centre de transfusion interrégionale.
Alors, on a l'habitude d'organiser des collectes à l'extérieur parce qu'on organise plus de 200 collectes dans tout le canton de Vaud, principalement dans les communes et dans les établissements hospitaliers, écoles et autres. Là, c'est une journée très particulière pour tout le monde parce que c'est au cœur de Lausanne, au cœur du canton de Vaud. Et c'est vraiment une journée qui a pour but de sensibiliser, d'aller au devant de la population et sensibiliser les gens au don du sang.
Médicalement, il y a des choses auxquelles vous devez faire attention quand vous travaillez comme ça à l'extérieur. Il y a des mesures d'hygiène particulières ?
y a, de toute façon, on a des règles très strictes concernant les prélèvements de sang qui sont dictées par Swissmedic. Donc on est soumis à ces règles-là qui sont parfaitement mises en place et respectées. Le don de sang lui-même ne dure que 10 minutes au maximum. On prélève 460 millilitres et ensuite on garde le donneur, on le surveille un petit moment, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, on le surveille. Si on est en bonne santé, si on est bien hydraté avant le sang, il n'y a en général aucun souci. Et ce n'est pas du tout mauvais pour la santé et le don de sang ne présente aucun danger pour une personne en bonne santé.
Qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que vous avez récolté ce sang? Il y a des analyses particulières, j'imagine, avant qu'il puisse être utilisé?
Bien sûr, donc chaque poche de sang, à chaque don est testée contre les maladies infectieuses. S'il devait y avoir quoi que ce soit, le donneur est contacté personnellement dans les 24 à 48 heures, ce qui est très rare en réalité. Donc le don du sang est basé sur la confiance. Par contre, il peut arriver qu'on ne soit pas conscient, qu'il présente une pathologie et ça peut être détecté par le don du sang aussi.
Si je donne mon sang aujourd'hui et puis que les analyses s'avèrent bonnes, que tout va bien, ça veut dire que mon sang va pouvoir être transfusé à quelqu'un ?
Absolument. Donc oui, le sang est transfusé. Les besoins sont constants dans les hôpitaux. C'est nécessaire de pouvoir assurer l'approvisionnement des hôpitaux en sang. Pour l'instant, on arrive à subvenir aux besoins. Le but de ces journées aussi, c'est de recruter de nouveaux donneurs. Parce qu'on sait qu'avec le vieillissement de la population, les besoins vont augmenter. Les besoins en sang. Donc on parle de sang, bien sûr de transfusion, et on parle de produits sanguins aussi. Donc on sait que 4 personnes sur 5 auront besoin un jour de leur vie, dans leur vie d'une transfusion ou d'un produit sanguin. Et ça va augmenter avec le vieillissement de la population. D'où le besoin de recruter de nouveaux donneurs et d'élargir notre pool de donneurs.
Il y a des besoins pour tous les groupes de sang, qu'on soit A ou B ou O, vous acceptez tout le monde ?
On accepte tout le monde. On est particulièrement gourmand en O négatif, qui est le sang du donneur universel. Et il y a uniquement 6% de la population en Suisse qui est O négatif. Mais bien sûr que tous les groupes sanguins sont nécessaires. Il y a une demande plus élevés dans les groupes plus répandus dans la population qui sont le O positif et A positif. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une belle suite de journée et puis beaucoup de donneurs, j'espère.
Je crois qu'on a déjà dépassé la centaine de donneurs, en tout cas, qui se sont présentés. Ça ne veut pas dire que tous ont pu donner aujourd'hui, mais ils pourront nous rendre visite à notre centre de prélèvement à Épalinges.
C'est noté, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup.
Et c'est une centaine de donneurs, un joli succès, Aude.
Oui, et la journée n'était pas encore finie. Au total, 112 personnes se sont présentées à Saint-François et 74 d'entre elles ont pu donner leur sang. Les 38 autres n'ont pas pu donner leur sang à cette occasion à cause de ces fameux critères d'admission.
Oui, effectivement. Oui.
À la fin de l'été, beaucoup d'entre eux reviennent de pays lointains, ce qui peut poser problème. Mais dans quelques mois, ils seront de nouveau tout à fait aptes à être donneurs et ils ont donc été redirigés vers le centre de transfusion à Épalinges. Donc comme tu le disais, Fabien, c'est une journée réussie, ce qui va sans doute pousser la Fondation et le centre de transfusion à réitérer l'opération l'année prochaine.
Eh bien, effectivement, on leur souhaite et on les suivra. Merci beaucoup, Aude, de nous avoir emmenés à cette journée particulière de don du sang en plein cœur de Lausanne, puisque c'était à Saint-François. Si vous aussi souhaitez donner du sang, vous retrouvez toutes les informations directement sur le site internet du centre de transfusion interrégionale www.itransfusion.ch. Et cette chronique est à réécouter en tout temps sur notre site www.django.fm. Musique avec Johnny Hallyday, cette chanson de circonstance 100%.
Radio Django, vivre à Lausanne.
J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Thank you.
su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. Des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. C'était sur la même longueur d'onde, les lignes de nos mains se confondent. Tu me renvoies comme un miroir, mes doutes et mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Ce qui reste en nous d'innocent, puisqu'on se comprend à présent. Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe, au-delà de nos différences. À force d'échanger nos silences, maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Au-delà de nos différences, à force
Django, 18-19h.
Il est 18h20 sur Radio Django. On part découvrir la carte postale maritime. C'est avec toi, Fabio. Bonjour, Fabio. Fabio, bonjour.
Ah oui, c'est bon.
Buongiorno, Fabio.
Ciao, carissimo. Bonjour, comment ça va?
Mais ça va bien, c'est plutôt à toi qu'on devrait te demander. Comment ça va? Tu es en mer aujourd'hui?
Ouais. Oui, je suis en mer avec une association de Fribourg qui amène en mer justement des personnes handicapées.
Oui.
Et là, nous sommes dans un décor absolument époustouflant. Nous sommes au nord de la Sardaigne, dans l'archipel de la Maddalena. Nous sommes sous voile et nous sommes en train d'aller vers une crique qui va être notre hôtel pour la nuit. On va poser l'ancre et puis voilà, et puis après on va faire manger, etc.
Bon, alors explique-nous, donc là, sur un bateau, vous dormez, vous passez la journée, vous passez plusieurs jours non-stop, tout le temps sur le bateau?
Tout le temps sur le bateau, oui. On est parti samedi de Porto Vecchio, en Corse, et puis on y passe une semaine. Oui, on dort sur le bateau, on mange sur le bateau, on vit vraiment toutes 24 heures sur 24, enfin, pas 24 sur 24, parce qu'on descend quand même un peu à terre, voilà.
Et puis alors, Robert, explique-nous, tu disais que c'était une association pour des personnes handicapées, donc tout le monde est handicapé à bord, enfin, sauf les skippers, j'imagine.
Alors, le skipper était les accompagnants. Nous sommes 10 de skippers. Nous, je co-skip le bateau. Il y a 4 accompagnants et 4 résidents, en fait. Donc, c'est vraiment du 1 à 1. Nous avons 4 personnes avec une mobilité extrêmement réduite en termes de communication aussi. Donc, c'est vraiment... là, on vient de partir dans le village. On a été... racheter un peu de quoi nous nourrir. Et puis, voilà, on descend une chaise à roulante. On doit faire marcher sur une annexe instable des personnes à mobilité réduite pour arriver jusqu'au port, etc. etc. quoi. Mm-hmm. Oui, c'est un fitness. Oui.
On se demandait tout à l'heure en préparant l'émission, comment est-ce que vous gérez des fauteuils roulants sur un voilier?
Bon, sur le voilier, il y a le fauteuil roulant, il est... casé, il est vraiment bien casé parce que déjà il faut pas qu'il nous roule dessus ou qu'il soit dangereux. Et puis la personne qui est dedans, elle n'a pas, pendant qu'elle est sur le bateau, elle n'a pas de fauteuil roulant. Donc on la déplace, elle se déplace parce que bien entendu elle est médecin. Voilà, un bateau est toujours un lieu assez dangereux. Il y a toujours plein de choses partout qui traînent par terre, en haut, en bas, etc. Donc on redouble vraiment d'attention, mais on le fait, c'est génial.
Magnifique. Quel est le programme pour ces prochains jours, Fabio, avec cette association fribourgeoise?
Alors, elle s'appelle Merveille, l'association. On va, comme je disais là, on va aller se poser dans une crique, et puis demain, on va entamer un peu le voyage de retour en direction de Porto Vecchio, où on sera vendredi. L'idée, c'est de ne pas faire des trop longs trajets, parce que voilà, les 4 personnes à bord le demandent. Enfin, on sait qu'on ne peut pas faire des trop longs trajets. Mm-hmm. Donc, on va entamer ce voyage de retour en direction du nord de la Sardaigne et puis le sud de la Corse. Et puis, on arrivera à Porto Vecchio au vendredi.
Eh bien, magnifique. Voilà de quoi nous faire voyager un petit peu. Et puis, ici, effectivement, à Lausanne, il fait beau et chaud. Qu'en est-il en Sardaigne?
Alors, il fait extrêmement chaud, très, très, très chaud. On avait un peu de pétole, qui, dans le langage marin, signifie qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Ouais. Là, on vient d'en toucher un peu, mais c'est très bien. Parce qu'on fait de la voile, et puis c'est magnifique. Et puis deux, parce que ça donne un petit peu de... Ça nous rafraîchit un peu. Là, on a vraiment, cet après-midi, on a été se baigner tellement il faut vraiment... vraiment prendre un peu de pression parce qu'il fait une canicule d'enfer.
Eh bien, on vous souhaite bon courage, mais surtout beaucoup de plaisir à toi, Fabio.
Merci
et à
beaucoup,
toute l'équipe.
Django.
Merci. Et puis, alors, c'était pas du tout un canular. Effectivement, tu es tout à fait avec nous en direct grâce à la technologie, en direct de ton bateau au nord de la Sardaigne. Merci beaucoup, Fabio.
Eh bien, je vous remercie à vous. Ciao.
À toi. Ciao, Fabio. On rappelle que, voilà, Fabio, en mer entre la Corse et la Sardaigne, jusqu'à vendredi en croisière pour l'association Merveille. Merveille, donc une association fribourgeoise pour emmener des personnes plus ou moins handicapées, faire du bateau, faire du voilier. Voilà, Merveille, mer-veille.ch. On vous met le lien sur notre site django.fm.
Radio Django. La rose des vents.
18h25, passé de quelques secondes, on passe à la rose des vents et ce soir, nous avons le grand bonheur d'avoir d'ouvrir la saison avec Festive Arte, un événement créé par Métis Arte, histoire de clore la fin de l'été avec une note musicale, du théâtre et des pas de danse et surtout faire de la résistance en se posant. Faire de la résistance, Daniel.
Métis Arte, à l'origine de cette manifestation, est une association socio-artistique qui s'indigne et résiste par l'art. Elle s'appuie sur la danse, le théâtre et la rencontre pour aborder des problématiques sociales comme le racisme, les injustices sociales et le genre pour déconstruire les préjugés véhiculés dans nos sociétés et jeter des ponts en faveur d'une société plus inclusive.
Alors d'accord, mais c'est quoi faire de la résistance en se posant?
En fait, le thème de ce 3e festival organisé par Métis Arte est Pose-toi, une manière d'inviter les acteurs de la société civile et institutionnelle à s'accorder un moment de détente
en profitant de diverses animations théâtrales et musicales, de films, d'ateliers et d'espaces de discussion. Tout simplement, prendre une pause pour aller à la rencontre de l'autre dans un contexte de diversité, une richesse de Lausanne n'en déplaise à ses détracteurs.
Voilà. Soutenir Festivarte. Et qu'est-ce que c'est Festivarte? Qu'est-ce que c'est Festivarte?
Un week-end pour vivre la magie de la multiculturalité.
Allez.
Thank you.
Hey, con la caméra.
Pour, par, avec, toutes et tous. Obrigada! Un festival pour dépasser les préjugés. Grazie.
Une plateforme à se servir pour le vivre ensemble. Gracias.
Ah oui, il y a du rythme, hein, ça donne envie de danser. Daniel, quand est-ce qu'aura lieu cette manifestation?
Le festival ouvre cette porte le vendredi 1er septembre.
Ah, c'est ce vendredi déjà.
Déjà, ouais, on y déjà, est presque, ouais. À Pôle Sud. Et on sent la tension monter, avec Michel particulièrement ce soir. Festival qui va s'éteindre le dimanche 3 septembre à la Place de l'Europe. C'est un projet organisé en partenariat avec Pôle Sud, le centre socioculturel de l'Union syndicale vaudoise et l'association Alta la Vista. À la Vista, pardon. Projet soutenu par l'UBLI, le bureau lausannois pour l'intégration des immigrés.
Et pour découvrir cet événement, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Michel Cardone. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes animatrice socioculturelle. Vous intégrez le comité de Métis Arte en 2013, hein, si nos informations sont correctes. Et vous assurez la présidence de l'association depuis 2015, soit depuis 2 ans à peu près.
Eh oui, lourde tâche.
Eh ben oui, on aura l'occasion d'en parler, j'espère. À nos côtés également, Johanna Ruffiner. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice de cette association Métis Arte. Alors, avant de découvrir le festival dont on a eu les prémices tout à l'heure au micro de Daniel, est-ce que vous pourriez brièvement nous rappeler ce que fait l'association Métis Arte, née en 2005, Michel Cardone?
Alors, Métis Arte, c'est une association qui est née d'une rencontre entre différentes cultures, différentes identités et différentes personnes avec des professions, soit de l'art, soit du social, et qui viennent du milieu artistique de la Suisse romande au départ. Mmh. Ensuite, pour nos actions, nous visons la promotion justement de toute la défense des droits fondamentaux, qui sont le respect des humains, le respect de tous. On travaille beaucoup contre les discriminations, pour l'intégration. On préfère parler de discrimination plutôt que de racisme, parce que le racisme a un sens beaucoup plus large. Et puis, je pense que Johanna va pouvoir donc vraiment sensibiliser le public à toutes ces problématiques sociales qui sont dans les vies de tous les jours, dans la vie quotidienne, qui sont liées aux différences de chacun et aux identités très différentes que nous vivons et qui finalement en forment une seule identité, c'est l'humanité dans son ensemble.
Un
large programme, oui.
Pose-toi est la 3e édition de Festivarte.
Et on écoute un extrait.
Plus qu'un festival, une rencontre avec l'autre.
Quand remonte le premier festival et dans quel cadre est né ce concept?
Il remonte à 2011, certainement que Johanna va peut-être me reprendre parce que je ne suis pas là depuis ses débuts. Il remonte donc à 2011 et il a été réalisé pour célébrer les 6 ans de l'association, de la naissance de Métis Arte.
Tout à fait, c'était donc en 2011 et c'était une idée qui nous est venue avec un groupe de partenaires quand on voyait qu'il y avait beaucoup d'associations qui travaillaient en mélangeant l'art ou en utilisant certaines notions artistiques pour l'intégration, mais on ne trouvait pas des espaces pour pouvoir montrer le travail, l'énorme travail qu'on fait avec la population lausannoise.
Mais qu'est-ce qui vous a motivé à reconduire ce festival? Je crois qu'il y a eu un franc succès en 2015.
Alors, il y a eu un franc succès aussi en 2011, ce qui nous a fait réfléchir. On s'est dit, il faut qu'on le refasse, mais on a laissé passer 4 ans. Et pour nos 10 ans, on s'est dit, voilà, c'est le bon moment de relancer le festival. Autant parce qu'il y avait un réel besoin à nouveau avec les partenaires avec lesquels on travaillait, autant qu'on avait envie de donner à la ville de Lausanne un espace socio-artistique intéressant.
Les thématiques phares de cette troisième édition concernent entre autres les questions de diversité, de migration et d'intégration et d'environnement. Vous utilisez l'art pour parler de problématiques sociales. Mais en quoi l'art agit comme outil de transformation sociale ?
Alors nous voyons l'art comme un espace humain, comme un espace où il n'y a pas besoin d'avoir des langues, où on est un soi-même, on peut avoir des espaces de dignité. L'art où on peut trouver nos compétences, on peut découvrir des compétences et dans ce sens-là, c'est vraiment un espace pour pouvoir travailler avec l'autre et découvrir l'autre.
Mais pourquoi est-ce que vous parlez d'outils de transformation sociale ?
Parce que nous pensons que c'est en allant à la rencontre avec l'autre qu'on peut changer le monde.
Est-ce que vous pensez que ça permet vraiment de changer le monde ?
On est convaincus.
Au niveau des consciences, au niveau des agissements ?
Absolument, ça fait 12 ans qu'on travaille à Lausanne et en la Suisse romande et on peut vous dire que le travail qu'on fait avec les enfants, avec les adultes, avec les jeunes, ça démontre que l'art peut changer le monde.
Quel regard,
absolument. Je vais juste donner un petit exemple parce que ça en réfléchissant tout à l'heure, je me disais qu'il y avait un exemple qui était très pertinent par rapport à ce changement social. C'est l'idée de, par exemple, quand on monte une pièce de théâtre avec des personnes qui sont de différentes communautés, qui se rencontrent, qui expliquent leur quotidien, leurs histoires, leurs ressentis par rapport à justement cette notion d'intégration, qui écoutent les histoires de l'autre, se rendent compte chacune que finalement l'histoire de l'autre est aussi la sienne. Et il y a tout ce partage et c'est vraiment tout ce côté où on devient porteur de notre propre histoire et à l'écoute de l'autre. En plus, le fait de monter sur scène et de raconter son histoire, il y a toute la notion de valorisation, de mise en valeur des gens. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est un changement. Pour moi, c'est aussi un changement. C'est en tout cas amener les gens à accepter l'autre et à faire en sorte que la vie soit meilleure pour tous.
Ce processus de valorisation dont vous venez de parler va être mis en exergue. Claudia Pessina a eu l'occasion d'enregistrer lors de leur dernière répétition à Pôle Sud un groupe d'acteurs qui donnent leur ressenti par rapport à cette expérience.
Le théâtre, c'est la collective R qui m'a poussé à le faire parce que j'étais au refuge. On était là-bas, on ne faisait rien du tout. On était un peu coincés, on ne sortait pas, on n'a pas d'activité à faire. Claudia et Sandra sont venus pour nous proposer pour faire le théâtre. Du coup, j'ai dit, bon, attends, je vais essayer. Bon, le fait que si j'étais là-bas, je ne faisais rien du tout. Je suis passé tout mon temps, toute la journée, assis à ne rien faire. J'ai dit, attends, bon, je vais m'engager à faire le théâtre. Ça m'a fait du bien parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens à cause de Claudia et Sandra. Ils m'ont présenté beaucoup de personnes. Du coup, ça m'a fait du bien, quoi.
Qu'est-ce que ça signifie pour toi faire du théâtre à un niveau personnel, à un niveau de rencontre de l'autre et à un niveau aussi de changement de perspective qu'on peut avoir face à la migration ou à l'autre?
Premièrement, pour donner aussi un message dans le monde entier de Métis Art. On fait des choses, l'inscription c'est gratuit pour tout le monde. Elle peut venir, elle peut participer aussi à faire des trucs. Donc ça déjà c'est positif.
Et puis qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, dans tes émotions, le fait de faire cette expérience de théâtre?
Ouais, l'expérience de théâtre, ça m'a changé un peu. Je me sens bien intégré aussi dans la vie quotidienne. Et puis, ça me permet aussi de parler aussi avec des gens que je ne connaissais pas là, à partir des théâtres. C'est l'approche vraiment des êtres humains, quoi.
Le programme de Festive Arte 2017 s'annonce riche, original et pédagogique.
1, 2, 3, on se voit au Festive Arte.
Quels sont vos coups de cœur, Michel Cardone et Johanna Ruffiner? Michel Cardone, peut-être.
Le programme en soi est pour moi un coup de cœur. Donc, dans l'ensemble, ça passe du théâtre à la danse, à des échanges associatifs. Donc, c'est un coup de cœur de manière générale. Par contre, j'ai un coup de cœur particulier, c'est pour la batucade. Pourquoi j'ai un coup de cœur pour la batucade? Parce qu'on va vers les gens, une fois de plus. C'est aller à la rencontre d'eux. C'est provoquer le désir de se rencontrer. C'est provoquer par les couleurs différentes qu'il y aura dans la foule, avec des identités, avec des identités fort différentes, avec des couleurs certainement de peau différentes, fait que ça montre aussi, ça donne tout de suite la couleur de notre association. Dans la ville de Lausanne. Pour la ville de Lausanne. Et je trouve ça hyper, hyper important, hyper intéressant. Et il y a une belle ambiance. Donc, c'est tout ce côté festif aussi qui apparaît. Et c'est vrai qu'un festival, il est effectivement social, mais il doit être aussi fête et festif.
Johanna Ruffiner, pour vous, un coup de cœur?
Alors, pour moi, il y a l'association, la compagnie Giuliani di Gulliver, j'espère que je dis bien, parce que c'est suisse-italienne, qui vient du Tessin.
On aurait pu demander à Fabio avant.
qui nous présente les Princes Grenouilles ou Enrico di Ferro. Mm-hmm. Et c'est une compagnie qui travaille avec des personnes en situation d'handicap et fait un travail remarquable. Et voir ces personnes en scène, c'est vraiment un réel plaisir. C'est vraiment ce que je venais de dire avant. Cet espace de dignité où les gens vraiment montrent ses compétences, et c'est génial.
Quand on balaye le programme de Festival Arte, on pourrait se poser une question essentielle. Dans quelle mesure est-ce que les projets de Mestis Arte relèvent de l'éducation populaire?
Alors,
Johanna.
On utilise le théâtre social, on utilise le théâtre de l'opprimé comme base de toute notre démarche pédagogique. On essaye de prendre les personnes qui participent, et même les personnes animatrices, les prendre comme partie intégrante d'une co-construction. L'idée, c'est vraiment que chaque personne trouve ses compétences, puisse les partager et qu'on puisse apprendre ensemble.
Le festival s'ouvre le vendredi 1er septembre avec l'exposition Outre-mer. En quelques mots, pourquoi avoir choisi d'ouvrir le festival avec cette exposition et en quoi est-ce qu'elle consiste?
Alors, pour moi, je ne sais pas, c'est une idée que j'ai eue. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait dire autre chose, mais moi, le fait que ces artistes ont choisi Outre-mer, j'y pensais tout à l'heure, c'est le fait que c'est l'histoire de la pierre volcanique qui est broyée, qui est bleue.
Lazuli, c'est ça.
Lazuli, et qui doit certainement, à mon avis, sensibiliser chaque artiste dans ses propres techniques et sa propre compétence, que ce soit la photo, la peinture, et faire quelque chose de différent, mais c'est un petit peu comme on vit à Métis Arte. On est différent, mais on a une base commune. Et c'est ce côté que je trouve fort intéressant. Donc j'ai imaginé ça, le choix des artistes. Peut-être que je suis à côté de mes pompes, et je ne sais pas.
Une dernière question. Est-ce qu'il faut être d'outre-mer pour vivre et participer à Métis Arte?
Non, pas du tout, alors. Vraiment pas.
Bien, heureusement, comme ça on pourrait.
Non, ce serait grave.
C'est pas sectaire.
Ce serait grave si on faisait ce genre de choses.
Précisément, une des caractéristiques de nos projets, c'est qu'on essaye de mélanger toujours les populations, disons comme ça. Mm-hmm. Disons que pour nous, ce qui est important, c'est que des personnes autochtones, des personnes suisses, lausannoises et des personnes d'ailleurs puissent se rencontrer. C'est là où on peut trouver vraiment l'intégration. Donc, c'est comme ça qu'on imagine un changement pour la société aussi.
Et comme vous le dites, c'est une intégration en allant voir les autres, en ouvrant la porte de chez vous pour pas que ce soit une fête entre vous. C'est
absolument,
ça.
Voilà. C'est ça.
On vient de découvrir quelques facettes de ce programme de votre festival, Festival Arte. Vous semblez avoir de nombreux partenaires dans le monde. Il existe donc une plateforme socio-artistique en Suisse. Comment se sont tissés les liens avec ces associations?
C'est toujours justement par des rencontres et des invitations. Le festival, c'est typique pour inviter des associations qui sont d'ailleurs. Il y a aussi des collaborations durant l'année avec des associations. On travaille passablement avec les centres socioculturels qui sont aussi des associations et qui travaillent eux-mêmes avec des associations. Donc, on a cette opportunité de rencontrer des gens qui travaillent aussi avec des gens, avec des humains, et qui fait qu'on se retrouve... Et on partage souvent les mêmes entre guillemets, joies et les mêmes difficultés.
Et à niveau international, disons qu'il y a un savoir-faire, donc il y a des personnes, des associations qui travaillent, qui développent le monde socio-artistique, avec lesquels on a des liens et avec lesquels on a pu partager ou collaborer, notamment en Argentine, en Colombie, au Népal. Et donc on continue, voilà. L'idée, c'est vraiment de nous enrichir et de partager nos savoirs.
Vous caressez le rêve avec cette troisième édition de Festival Arte de voir naître une plateforme suisse de l'art social. Brièvement, en quoi elle consisterait ?
Alors l'idée c'est vraiment de tisser des liens, de pouvoir déjà partager nos problèmes, de partager nos points forts et de trouver des solutions ensemble. Pourquoi ? Parce que quand on parle de socio-artistique, c'est un sort hybride où des fois à niveau institutionnel, tout le monde ne comprend pas. Ça veut dire, par exemple, de notre côté, quand on va chercher des subventions pour nos projets, tout dépend d'où est-ce qu'on cherche. On va nous tâcher d'artistique dans un domaine social ou des sociales dans un domaine artistique.
C'est donc un problème de reconnaissance.
Il y a un problème de reconnaissance qui empêche une reconnaissance plus globale, disons. Et pas seulement, pas pour notre association, mais aussi pour le travail des personnes usagers des associations comme la nôtre.
Le festival se veut être une scène pour le travail des associations des communautés culturelles de Lausanne. Quels seraient les atouts justement de cette diversité culturelle ? Est-ce qu'il faut absolument la promouvoir ?
Il faut absolument la promouvoir parce que c'est la réalité, c'est ce qu'on vit. Lausanne est multiculturelle.
Mais tout le monde ne l'entend pas de cet œil.
Tout le monde ne l'entend pas de cet avis.
C'est pour ça qu'on est là.
Précisément, il faut sortir dans la rue et regarder la réalité.
Une petite question pour conclure. Une campagne de crowdfunding a été lancée pour soutenir votre projet.
Oui, complètement.
Comment ça
a été difficile à démarrer. Au départ, c'était assez compliqué. Mais nous sommes des têtus, donc on relançait pas mal les gens, des amis, des connaissances et autres à plusieurs reprises.
Bon, vous pouvez aller leur demander aussi si c'est vos amis et vos connaissances.
Oui, mais bien sûr, il y a les téléphones, il y a pas, mais on les relançait quand ils oubliaient. Et en général, ça a marché.
Donc, bon, du coup, vous avez réussi à obtenir vos...
On a dépassé le minimum qu'on avait mis. Par contre, si les gens m'entendent, c'est toujours possible de mettre un petit peu d'argent sur le crowdfunding de l'association Métis Arte. Vous êtes les bienvenus. Et si vous n'utilisez pas le crowdfunding, il y a un compte Métis Arte sur lequel vous versez un petit don. Parce qu'on a très peu de moyens.
On trouve toutes les informations sur votre site, j'imagine.
Pardon ?
On trouve toutes les informations de participation, de cotisation sur votre site.
Vous trouvez tout sur le site.
C'est parfait. Oui, Daniel, dernière question.
Et Michel, en cas de financement réussi, à qui sera reversé l'argent récolté ?
Alors, l'argent récolté sert particulièrement à financer le festival, parce que comme on disait tout à l'heure, on a peu de moyens. Et comme si Jeanne a relevé le fait qu'on n'obtient pas forcément des subventions parce qu'on nous considère comme trop artistique ou trop culturel ou trop social, mais jamais les deux, socio-artistiques. On ne nous reconnaît pas comme tel. Donc, on a reçu une subvention du BLI, et merci à eux d'ailleurs. Par contre, c'est la seule subvention que nous avons obtenue. Donc, ça va servir à financer les artistes parce qu'ils ne viennent quand même pas gratuitement. Voilà.
Voilà pour ce festival Festive Arte qui commence ce vendredi 1er septembre à Pôle Sud. Ça se tiendra jusqu'à dimanche 3, donc encore cette semaine. Merci beaucoup, Johanna Ruffiner.
Merci beaucoup à vous.
Merci également à Michel Cardone de nous en parler ce soir. Vous renvoyez encore sur votre site Métis Arte avec une petite recherche sur votre moteur de recherche préféré. Sur Facebook, on trouve également toutes les informations de votre festival et de votre activité. On met tous les liens sur notre site avec cette chronique www.django.fm. Merci à Daniel pour la préparation de ce sujet.
Este carpe diem, tranquilo por dentro, mirada sincera, me enseña la dicha de amar a quien sea, buscando sonrisa. Abrazos de miel, ternura infinita en tu regazo da, ternura infinita en tu regazo da. Thank you.
Maria de la Paz avec Un Año en Flor.
Radio Django, culture.
18h47, voilà, je regarde ma montre, on entame Cultiver Lausanne, notre dernier volet de chaque grand direct, et ça fait plus de 6 ans maintenant, Jean-Luc, que la gestion du cinéma City Club a été reprise par l'association du même nom. Au programme, cinéma, musique, événements, la 7e saison s'ouvre le 1er septembre, donc ce vendredi. Pour en parler, Radio Django reçoit Nicolas Vitevert, chargé de communication. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Passe un bon été aussi.
Un très bon été, oui.
Oui. À la bonne heure. C'est avec toi, Jean-Luc.
Oui, alors avant de nous présenter le programme, parce qu'en fait, on le fait toujours un peu, on tire un peu un bilan de la dernière saison, de la dernière année au City Club, que ça soit au niveau public, au niveau financier. Je sais qu'il y a un effort assez important maintenant pour s'intégrer un peu plus dans la ville de Puy. Il y a toute une série de programmations ou d'événements qui font en sorte que, voilà, que ça redevient peut-être aussi le cinéma de la petite ville de Puy, enfin peut-être la grande ville de Puy, mais en tout cas que ça soit pas seulement, enfin qu'il y ait aussi cet aspect-là qui soit développé au City Club.
Oui, c'est vrai que bah là, vu qu'on parle de bilan, on a fait ces deux mois de pause estivale qui nous permettent à chaque fois de se reposer, de retrouver d'autres bénévoles pour la saison, de préparer la saison suivante. Mais oui, je crois qu'on essaye en tout cas d'être un cinéma de quartier aussi, donc un cinéma qui est ancré dans Puy. Et puis ça passe beaucoup par les séances pour les familles, pour les tout-petits, en fait des films exprès pour les dès 2 ans, donc vraiment les tout-tout-petits, et puis des séances pour les 6 à 12 ans, et ça c'est vraiment un public très puyérant aussi qui vient, donc c'est important d'avoir aussi ce côté cinéma de quartier, comme il l'a toujours été depuis les années 50 d'ailleurs.
Et puis en termes financiers, ça veut dire que la ville de Puy vous soutient les activités de
Puy. Oui, la ville de Puy continue de nous soutenir, oui, de façon régulière, oui, absolument.
Et au niveau du public, une augmentation
On est plutôt stable par rapport à l'année passée, ce qui est une bonne chose parce qu'on avait fait une très très bonne année l'année passée. On a une petite hausse de fréquentation, on a 200 spectateurs en plus, mais ça représente à peu près 14 000 spectateurs, donc pour une salle quand même un peu excentrée de Lausanne, avec un seul écran qui n'a pas beaucoup de projections par semaine. C'est un très joli score.
Ouais, c'est bien l'inverse des multiplex. Vous avez combien de places assises dans le cinéma?
Mais on en a 200 quand même.
Ah, quand donc, même ah, ah oui, ouais. C'est pas une petite salle.
Donc non, c'est une petite salle parce que c'est comme ça qu'on appelle ce cinéma, c'est un petit voilà, cinéma, mais oui. C'est quand même 200 places oui, à remplir, donc appui. Mais c'est une salle absolument magnifique. Mais c'est vrai que c'est plus tellement dans les habitudes des cinémas, de l'exploitation cinématographique, d'avoir une salle unique de 200 places. La logique voudrait plutôt qu'on détruise la salle pour faire 4 petites salles de 50 places, mais on voudrait pas faire bon, ça.
Ça, c'est encore un autre débat.
Oui, alors le programme de cette saison comprend toujours toute une série de films, de concerts, d'événements. On va commencer peut-être par parler de Nothing Wood, qui sera projeté en présence de la réalisatrice, hein, Sonia Kronlund. Ce film est un hommage à Salim Shaheen, un cinéaste afghan qui semble avoir déjà réalisé 110 films de série Z. J'ai jamais entendu parler des séries Z, mais c'est intéressant.
C'est quoi une série Z?
Ah bah c'est des films qui sont bricolés plutôt, qui sont faits un peu sans argent, juste avec beaucoup de bonne volonté. Et puis c'est souvent des films de genre. Et effectivement, ce réalisateur afghan, eh bien c'est une star dans son pays. Parce que en Afghanistan, il n'y a pas d'argent pour le cinéma. Et lui, pourtant, il fait des films, il fait souvent même 4 films en même temps. Ouais. Et la réalisatrice a décidé de rendre hommage à son travail et puis de consacrer un documentaire sur son travail, sur le travail de sa troupe d'acteurs aussi. Ouais.
Mais qu'est-ce que ça représente, justement, ce travail dans un pays qui est en guerre depuis une trentaine d'années? Enfin, comment on peut imaginer, justement, qu'il y ait encore une vie au niveau du cinéma? C'est assez extraordinaire, parce que j'ai vu un peu la bande-annonce, on voit que c'est assez débridé, quoi. Je veux dire, c'est très, très intéressant de voir un peu comme une espèce de folie qui se dégage. Et bon, j'ai pas vu le documentaire, malheureusement.
Non, mais c'est
est-ce que ça se traduit au niveau du documentaire?
Complètement, oui. Et c'est même ça qui a intéressé la réalisatrice, Sonia Kronlund, qui travaille notamment sur France Culture à la radio, qui fait depuis, je crois, 2002 l'émission Les Pieds sur Terre. Donc c'est une émission
sur France Culture, effectivement, ouais. 13h30, 14h.
Voilà. Et donc c'est une émission de documentaire, comme ça, de toute société. Ouais. Et elle, ça fait depuis 10 ans à peu près qu'elle se rend en Afghanistan, en Iran, etc. pas qu'elles ont fait des documentaires, mais plutôt très durs hein, sur, enfin, sur la guerre, sur les sujets difficiles du quotidien. Et puis, vu qu'elle se rend souvent en Afghanistan, bah, elle connaissait le nom de Salim Shaheen. Elle a décidé de faire cette fois-ci un film peut-être un peu plus léger, puisque c'est justement cet hommage à ce réalisateur qui fait des films de genre, et des films un peu décalés en Afghanistan, alors qu'effectivement, c'est un pays en guerre. Mais donc le film montre cet optimisme, cette joie de vivre de toute sa troupe, mais n'oublie pas non plus le côté plus difficile de la situation là-bas, puisque effectivement, bah, ils doivent vivre avec ça, et donc ils l'intègrent aussi, ils intègrent cette thématique de la guerre dans leur film, et donc ça donne un documentaire vraiment très riche, parce que justement, il y a ces deux côtés, le côté un peu décalé de la situation, enfin des films de série Z du réalisateur afghan, et puis bah, la situation difficile de l'Afghanistan.
Et qu'en est-il de la diffusion de ces films en Afghanistan ? Comment ça se déroule ?
Alors, moi, c'est une petite colle, là. Le film ne le dit pas.
On en pose toujours des colles à Radio Django. Hein. Ouais.
Non, mais alors, par rapport aux images du film, les films sont projetés, les films sont vus, les gens connaissent son cinéma et voient son cinéma. Donc, il y a beaucoup de projections publiques. Dans les villages, etc. Donc les gens reconnaissent aussi le réalisateur et ses acteurs dans la rue. Donc il est assez formidable, ce personnage, parce qu'il joue aussi avec son côté un peu star. Donc lorsqu'il est en voiture, il ouvre la fenêtre pour saluer ses fans. Enfin, il joue vraiment sur le côté
star. Oui, donc c'est vraiment un personnage public. C'est ça qui nous intéresse aussi, savoir si c'est vraiment quelqu'un qui est...
C'est un personnage...
C'est pas quelqu'un qui est marginalisé, c'est vraiment quelqu'un qui apparaît sur la scène.
Oui, ouais, complètement. C'est un personnage public qui peut agacer aussi, parce qu'il a un côté un peu, c'est quelqu'un de très bonhomme comme ça, un peu bon vivant et aussi un peu prétentieux et arrogant. Et donc ça donne un personnage un peu qui a un peu toutes les facettes. Et d'ailleurs, il y a son fils qui est un peu embêté à l'école parce qu'on lui dit que son papa est prétentieux alors que lui ne fait que du cinéma. Donc il y a plein de situations un peu cocasses comme ça. Mais oui, c'est un personnage public. Quoi.
Donc ce documentaire Nothing Wood, il sera diffusé tout au long du mois de septembre et ça commence ce vendredi à 19h.
Exactement, à 19h. Et puis la réalisatrice sera présente samedi prochain, mais le 9 septembre à 20h pour parler de son film.
Et là, il faut s'inscrire ou bien...
On peut acheter des billets en ligne, ça c'est une nouveauté qu'on a fait pendant l'été, on a une billetterie maintenant.
Et puis sinon, on a votre billetterie.
Ouais. Et puis sinon, enfin c'est presque prêt, mais d'ici vendredi ce sera bon. Et puis sinon, vous pouvez toujours réserver par mail, etc.
Oui, alors quelques mots peut-être aussi sur l'autre film projeté durant cette période, c'est La communauté hein, de Thomas Vinterberg, donc qui est le cofondateur du mouvement Dogme 95 avec Lars von Trier, et l'auteur d'un film culte, un Festen, qui avait déchiré en fait les écrans à l'époque. Et voilà, il semble que c'est une comédie.
C'est une comédie, mais un peu acide quand même, vu que c'est Thomas Vinterberg, et c'est lui aussi qui a réalisé La Chasse il y a quelques années avec Mads Mikkelsen. Et puis là, il fait un film qui se déroule dans les années 70 avec deux quinquagénaires qui achètent une grande maison et qui, beaucoup trop grande, décide de vivre en communauté. Et donc, ils ont fait.
Grosse colloque, quoi. En gros.
Voilà, une très grosse colloque avec des gens adultes qui viennent de tous les milieux. Et évidemment, avec Thomas Vinterberg, eh bien, la comédie devient aussi acide. Et c'est finalement un film un peu sur les désillusions du vivre ensemble.
Alors, on va peut-être passer à tous les éléments qui sont autour de la musique et du cinéma. Et on peut citer, en tout cas, le film qui nous emmène à Tunis.
Mais oui, ça c'est notre première soirée film et concert qu'on a appelé Café Tunis, puisqu'on va recevoir le groupe Amin et Hamza en quintette, parce qu'ils seront ces deux frères tunisiens, joueurs de oud et de kwanoun, si je prononce bien, et qui viennent accompagner d'un quintet d'autres musiciens suisses. Et donc c'est la soirée, le premier concert un peu tunisien, et donc vu nous, on aime faire des soirées films et concerts. Bien, la première partie, c'est le film « À peine j'ouvre les yeux » de Leila Bouzid, un film tunisien, et donc est projeté en première partie. Et ça, c'est le 22 septembre, je ne l'ai pas dit. Thank you.
Voilà donc un extrait de Amine et Hamza pour cette première soirée. Allez, j'allais dire café-concert, mais c'est presque ça. Hein.
Café Tunis.
Café ouais. Tunis.
Alors oui, le 30 septembre, nous irons en Italie avec le film Les Merveilles d'Alice Rohrwacher.
Exactement, et ça, sera la première partie de cette soirée, à nouveau, ce film et concert. On va projeter Les Merveilles d'Alice Rohrwacher, c'est ce film italien qui est sorti il y a, je crois, 2 ans, comme ça, mais qu'on repropose parce qu'il est assez merveilleux. Et puis, en deuxième partie, ça va être le Giallo Oscuro, qui est un collectif suisse, qui en fait va réinterpréter la musique italienne des années 60, notamment les maestri du giallo, du genre cinématographique bis aussi, série B. Et donc ils vont réinterpréter comme ça cette chanson italienne, ces mélodies particulières qu'il y avait en Italie dans les années 60. Et donc ça c'est le 30 septembre, une soirée film et concert autour de l'Italie des années 60 et d'aujourd'hui.
Alors, ça vaut la peine d'écouter un petit bout de son de la bande de film Les Merveilles, qui est un film assez surprenant, hein, parce que c'est quand même une communauté, c'est un collectif, hein, c'est une famille qui veut revivre un petit peu l'histoire de l'écologie, etc., enfin, avec ses apiculteurs. Et en même temps, les enfants n'ont pas tellement envie de vivre dans ce milieu, donc c'est assez étonnant. Donc, je pense que simplement, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez dire juste deux mots par rapport à ça, en fait, cette espèce d'ambivalence qu'il peut y avoir entre le désir de vivre à la campagne et en même temps, il y a l'arrivée de... Ben voilà, des paillettes, etc.,
téléréalité
hein, qui vient s'introduire un peu dans l'histoire. Mmh. Et puis, les jeunes filles, ça les fait rêver. Les enfants, ça les fait rêver.
Oui, alors qu'elles
vivent dans un... Donc, il y a toute une discussion autour de ça, une dichotomie entre ces deux aspects. Quoi.
Complètement. Et elles sont effectivement élevées dans un milieu très un peu archaïque, à l'ancienne, très traditionnel. Et puis, elles voient l'autre facette, ce personnage d'une téléréalité qui arrive dans leur village, etc. Et ça les fait complètement un peu chambouler et changer leur perception du monde.
Alors, quelques extraits justement de cette bande-annonce du film Les Merveilles.
Sta attenta.
Più su, babbo. Così.
Oh, mon Dieu, Simone. Se sta meglio da sole, no? Vabbè, aiutami, dai.
Bräuchtest einen Sklaven, Wolfgang. Nicht 4 Töchter wie die.
Non state a fa vacanza.
Dimmi. Partecipiamo?
A cosa?
Alla selezione, al Paese delle Meraviglie.
Ecco, ci manca questa stronzata.
Non ti ha chiesto di andare, non so, in discoteca? Ti ha chiesto di partecipare a un concorso?
Oh, Wolfgang! Quando lo fai, sto figlio maschio? Presto!
Vicky, ci assomiglia a tutti! Ci assomiglia!
Solo con lui, papo.
Quando non c'è lui si respira.
Voilà un extrait de cette bande-annonce du film Les Merveilles, hein, qui sera à visionner au City Club depuis le 30 septembre. Nicolas Wittwer, vous nous disiez juste à l'instant que ce dimanche, c'est une journée un petit peu particulière puisque c'est la journée du cinéma.
Exactement, puis la journée du cinéma, c'est en fait une initiative, ça fait 2 ans que ça existe maintenant, et c'est oui. Pendant une journée, la place est à 5 francs dans à peu près tous les cinémas de Suisse.
Ça, c'est tellement cool.
Oui, surtout que c'est souvent cher.
Pas très beau en plus dimanche, donc je pense que ça va vous convenir.
Exactement, et puis là, nous on participe aussi à cette journée, donc on a un petit aperçu comme ça de la programmation un peu du City Club ce dimanche, puisqu'on a un film pour toute la famille, c'est Le Grand Méchant Renard et autres contes, qu'on peut voir dès... 6 mois, dès qu'on est capable de voir une image, parce que c'est un film très drôle, très décalé. On fait 2 projections à 10h et 14h, et puis après, il y a 2 des films du mois, justement le Nothing Good, le film dont on a parlé, le documentaire sur ce réalisateur afghan, et puis après, La Communauté, de Thomas Vinterberg, qu'on peut voir à 20h30. Donc on a comme ça, une journée, pour 5 francs la place, un peu un aperçu de notre programmation.
Voilà qui vaut donc le détour. On rappelle, c'est ce dimanche, les journées du cinéma, avec les places à prix... hyper réduit, hyper, en tout cas, réduit. Hyper avantageux, tiens, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'était quelques coups de cœur, hein, un petit regard à travers votre nouveau programme pour la rentrée qui commence ce vendredi, le 1er septembre, au City Club de Puy pour les 6 prochains mois, si je me souviens bien.
Pour l'instant, on boucle le programme de novembre-décembre, donc en ligne, c'est jusqu'à fin octobre.
Jusqu'à fin octobre, très bien, et puis après on aura bientôt jusqu'à la fin de l'année.
Exactement.
Voilà, toutes les informations donc, du programme et les informations détaillées sur votre site directement, cityclubpuy.ch. On vous met le lien sur notre site avec cette chronique, bien sûr, pour entendre les extraits et vos différents commentaires. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci beaucoup.
Merci, Nicolas.
Une très bonne soirée, et puis on se donne rendez-vous la prochaine fois pour la prochaine programmation.
Exactement, avec plaisir.
Le rendez-vous est pris. Merci, Nicolas. Vous êtes chargé de communication au City Club de Puy. Merci beaucoup, et puis merci à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet. Quatre sujets dans ce grand direct. Nous avons parlé de don de sang qui était à Saint-François. Nous avons eu la carte postale maritime avec Mère Veille. C'était Fabio qui était le pied marin aujourd'hui. Nous avons parlé du festival Festive Arte. Et à l'instant, c'était le programme de la rentrée du City Club de Puy. C'était ce que nous vous proposions pour cette émission de rentrée du mardi 29 août sur Radio Django et sur Radio La Fabrique. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, premier mardi du mois de septembre, qui rime donc avec pause syndicale. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau grand direct à écouter sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique. Merci beaucoup à Nico, à la technique et à toute l'équipe. Toute l'équipe qui a œuvré pour réaliser cette émission, Aude, Fabio, Daniel et Jean-Luc. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est 19h.
Radio Django, 18-19h.